Bonsoir. Vital Kamerhe, soutenu par l'opposition, a déposé hier à la Cour suprême de justice le recours relatif au contentieux électoral pour le scrutin présidentiel du 28 novembre dernier. En même temps, l'opposition sollicite une médiation africaine et internationale en vue de dénouer la crise. Comment analyser la démarche de l'opposition ? Nos invités dans cette émission sont Chérubin Okende, cadre de la majorité présidentielle, et président national du Front social des indépendants républicains, FIR. Monsieur Okende, bonsoir.
Bonsoir, Alain.
Maître Jean-Baudouin Maillot, porte-parole de l'Union pour la Nation Congolaise, UNC. Maître Maillot, bonsoir.
Bonsoir.
Professeur Paul Gaspard Ngondankoy, professeur de droit constitutionnel à l'Université de Kinshasa. Professeur, bonsoir. Voilà, le professeur est en ligne. Professeur, bonsoir, vous nous suivez ?
Oui, bonsoir, je vous suis très bien.
Merci, et vous êtes déjà très nombreux à nous envoyer vos réactions, chers auditeurs et internautes. C'est le cas de Koulou Pied-Douce Pascal de Walikale au Nord Kivu. Je pense que la démarche de l'opposition est constitutionnelle et de ce fait à encourager, mais elle sera aussi crédible si elle est accompagnée de tous les procès-verbaux de tous les bureaux de vote pour que la Cour suprême de justice dise le droit avec les faits par rapport aux revendications. Et c'est ce que le peuple congolais attend. Lucien Moubaké, Baïzir et de Bukavu au Sud Kivu. J'encourage l'opposition congolaise à déposer ses recours, mais de ne rien attendre de la Cour suprême de justice, car l'opposition n'aura pas gain de cause malgré toutes les preuves qu'elle pourrait apporter. Bienvenue à tous dans votre émission.
Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions en appelant au 081 890 66 78 ou nous écrire par SMS au 081 051 57 78 et par mail, écrivez-nous à tech@radiookapi.net.
Vous le savez, le dépôt des recours du contentieux électoral pour la présidentielle du 28 novembre dernier s'est clôturé ce lundi 12 décembre à 16h locale. Le greffe principal de la Cour suprême de justice n'a enregistré que le recours du candidat Vital Kamerhe, président de l'Union pour la Nation Congolaise, UNC. Il a dit avoir déposé ce recours pour le compte de l'opposition politique. Classé en troisième position par les résultats provisoires de la CENI, le président de l'UNC affirme que c'est une formalité pour faire pression sur la haute cour, malgré son inféodation au pouvoir en place. On écoute Vital Kamerhe au micro de David Kalenda.
La Cour suprême de justice, elle est inféodée au pouvoir en place, mais elle demeure la Cour suprême de justice. C'est au terme de la Constitution. En attendant son éclatement en trois juridictions, c'est elle qui fait le travail de la Cour constitutionnelle. On a nommé les magistrats en violation de la Constitution, puisqu'il fallait à l'époque que le Conseil supérieur de la magistrature se réunisse. D'autres ont été nommés au début de la campagne, pendant la campagne. Et donc on peut avoir de fortes présomptions sur ce que ces gens-là ont comme mission à la fin. Et nous savons comment ils vont dire les droits, ça sera en envers les présidents sortants. Mais nous avons rempli notre formalité. Ça sera l'ensemble du peuple congolais, ça sera l'église catholique, ça sera les centres Carter et la communauté internationale. Tous viennent nous assister. Et je pense que c'est quand même une pression très forte pour que nos amis continuent à s'amuser. Le peuple congolais a les yeux rivés sur la Cour suprême de justice. Ils ont l'occasion d'entrer dans l'histoire de notre pays, positivement ou négativement.
Maître Jean-Baudouin Maillot, je rappelle que vous êtes porte-parole de l'Union pour la Nation Congolaise. Il y a quelques jours, Vital Kamerhe déclarait qu'il ne déposerait pas de recours à la Cour suprême de justice. Il a fini par le faire au nom de l'opposition politique. Il parle là d'une formalité. Finalement, quel sens donnez-vous à ce recours?
Bon, écoutez, mon cher ami, je voudrais d'abord vous dire merci de m'avoir invité à cette émission et de saluer tous les auditeurs qui nous suivent à travers la République démocratique du Congo et le monde. Maintenant, pour en venir à votre question, j'aimerais d'abord souligner que moi je suis avocat de profession. Donc la lecture que j'ai de ce recours, c'est celle du respect de la légalité. Lorsque une personne, physique ou morale soit-elle, s'estime lésée dans ses droits, il est prévu des voies, des droits pour obtenir réparation du préjudice subi. J'insère ce recours dans ce cadre-là. quoique l'environnement permette aux uns et aux autres d'avoir des préjugés sur la Cour suprême de justice. En tant qu'avocat, je ne peux pas me le permettre. J'ai prêté serment de respect, d'obéissance aux magistrats. Donc c'est un exercice d'un droit reconnu. Voilà.
Maître Maillot, à voir la manière dont les choses se sont passées, on a plus l'impression que le dépôt de ce recours est l'objet, le fruit de beaucoup de pression.
Je sais seulement qu'au sein de notre parti, l'Union pour la Nation Congolaise, il y a eu un débat sur l'opportunité de ce recours. Et ce débat a suscité deux camps. Et le camp qui soutenait qu'il fallait absolument faire un recours, introduire une requête auprès de la Cour suprême de justice, a finalement gagné sur l'autre camp. Et c'est ce que nous avons fait en tant que parti politique. C'est une requête de l'Union pour la Nation Congolaise, parti régulièrement enregistré en République démocratique du Congo. Voilà.
Alors, merci pour de préciser que c'est une requête de l'Union pour la Nation Congolaise, mais quand Vital Kamerhe dit en même temps que c'est fait au nom de l'opposition politique, qu'est-ce que ça voudrait dire?
Non, cela n'est pas prévu. Il n'existe pas une telle procédure. La procédure qui existe, la procédure légale, est que le parti qui a présenté un candidat a le droit de saisir la juridiction compétente ou bien le candidat indépendant. En l'espèce, l'UNC avait présenté un candidat à l'élection présidentielle, en l'occurrence M. Vital Kamerhe. Et donc, l'UNC a le droit de saisir la Cour suprême de justice en contestation des résultats. L'opposition politique a approuvé cette démarche. Nous sommes dans un contexte, nous ne sommes pas isolés, mais nous assumons pleinement la paternité de notre acte.
Merci, Maître Maillot. Prenons cette réaction qui nous vient de Bukavu, Sud Kivu, pour vous.
Thierry Mirawani de Bukavu, l'opposition congolaise avait une occasion de se souder avant les élections. Il ne faut pas attendre la fin des élections pour se ressouder et maintenant procéder à des contestations. L'opposition avait l'occasion de tuer le match bien avant. Parce que si tous les opposants s'étaient soudés bien avant, je pense personnellement que le résultat actuel serait tout à fait autre.
Dans le même sens, Maître Maillot, Matumaini Franklin de Bukavu encore, je me demande pourquoi l'opposition n'a pas été capable de se mettre d'accord autour d'une candidature commune, mais elle est cette fois-ci d'accord lorsqu'il s'agit de recours. N'est-ce pas là un aveu d'impuissance?
Non, il n'y a pas impuissance. D'abord, il n'y a aucune loi qui impose à l'opposition l'obligation de présenter un candidat unique. On a essayé, on n'y est pas arrivé, on a pu concevoir d'autres stratégies. Souvenez-vous que l'un des candidats à l'élection présidentielle avait dit que l'opposition unie ou dispersée, il allait gagner. Je n'ai pas la certitude que si on avait présenté le candidat unique, on n'aurait pas distribué les bulletins de vote, on n'aurait pas empêché aux témoins d'être dans les centres et bureaux de vote. Je n'ai pas cette certitude. Ce qui est arrivé était prémédité. Quoi que l'on eût fait, on allait arriver à ces résultats que nous déplorons tous. C'est un acte prémédité. Le pouvoir a voulu se maintenir peu ou prou, quoi qu'il en coûte au pouvoir. Et il en est arrivé de la façon que nous déplorons. Je crois que vous avez tous vu les bulletins qui ont circulé ici à travers la ville et sur toute la République démocratique du Congo. Et on les a arrêtés par-ci, par-là. Il y en a d'autres qui sont passés jusque dans l'urne. On ne peut pas gagner une telle élection. Alors que nous pensions légitimement qu'on nous organisait une élection pour que les meilleurs l'emportent, pour que la voix du peuple s'exprime. En réalité, il s'agissait d'une élection gagnée d'avance. Mais... Vous avez-vous vu des élections où les bulletins de vote sont distribués à certains candidats.
Maître Mayo, quand Vital Kamerhe dit que la Cour suprême de justice est inféodée au pouvoir en place, certains analystes pensent qu'il s'agit là d'un procès d'intention. Qu'est-ce que vous répondez brièvement?
Vital Kamerhe est le président de mon parti politique, l'UNC, mais vous comprenez que je ne suis pas Vital Kamerhe. Ça, c'est son opinion. Je
son porte-parole du moins.
Moi, je suis avocat de profession, je prêtais serment de respect d'obéissance aux magistrats. Je m'en tiens aux procédures légales existantes. J'ai conseillé, ensemble avec d'autres amis du parti, que cette procédure soit menée. Nos partenaires de l'opposition nous ont appuyés et c'est ce qui a été fait. Pour le reste, il faut peut-être demander à mon président qu'il explique sa pensée.
Merci, cher Ruben Okende. Vous êtes cadre de la majorité présidentielle, président national du Front social des indépendants républicains, FSIR. L'opposition pense que la Cour suprême de justice est inféodée au pouvoir en place, mais Vital Kamerhe a quand même déposé sa requête hier. Quelle est votre analyse?
Je voudrais d'abord retourner la politesse à Baudouin Maillot, qui est mon ami, du fait qu'il nous a salué, l'a salué les auditeurs de Radio Capi. Là, je constate certainement que l'opposition est en train de continuer toujours dans cette diversion pernicieuse qui n'honore ni la classe politique ni la démocratie dans notre pays. De prime abord, je constate déjà des controverses ou des divergences entre la position de Maître Mayo et de son président. Lui, il n'a pas de préjugés négatifs à émettre, mais on constate de prime abord aussi que dans le chef de son président, c'est plus ces mêmes préjugés, les présomptions malveillantes et malheureuses en l'encontre des institutions de la République. Je me dis quel type d'homme d'État nous voulons faire. Des digressions juste pour distraire, c'est ce que même Thierry, un auditeur, venait de soulever. L'opposition avait tout le temps d'arrondir ses angles, de s'entendre et d'aller peut-être en ordre regroupé pour encore une fois, capitaliser ses chances de pouvoir l'emporter aux élections, mais tous ces balbutiements d'après les élections ne concourent qu'à un schéma, le schéma de la contestation insurrectionnelle, et les paramètres sont là pour prouver ce schéma-là. Donc il faut attirer l'attention du peuple congolais qu'avec cette opposition, on ne peut pas faire la véritable démocratie. Lorsque Baudouin Maillot cite les églises, l'église catholique, il cite le centre Carter, et pourquoi ne cite-t-il pas l'ONU, il ne cite pas les États-Unis d'Amérique, l'Union européenne, la SADC, la Belgique, qui ont approuvé aujourd'hui le rapport, enfin les élections, leur donnant le caractère crédible. Pourquoi, lorsqu'il parle de l'Église catholique, il ne parle pas de la CNCO qui avait donné un point de vue? Et là, je vois des recoupements qu'ils ont toujours, peut-être avec l'archevêque de Kinshasa, dont nous connaissons déjà les appétits politiciens, qui ne voilent pas la face. Aujourd'hui, il est en train de heurter même...
N'est-ce pas un jugement d'intention également? L'archevêque, malheureusement, n'est pas dans ce débat pour se défendre.
Non, il n'est pas dans ce débat, et c'est pas non plus un procès d'intention, parce que au fait, des manques de crédibilité, ce sont les chiffres que l'archevêque de Kinshasa a pu avancer, qui n'ont pas de fondement du tout. Et je peux vous démontrer que ces chiffres-là, je ne connais pas la source, mais lorsqu'on regarde les chiffres de la CNI rapportés par lui-même, il y a des écarts énormes. Et lorsque Maître Maillot fait allusion au rapport du centre Carter, pourquoi ne pas aller jusqu'au bout? Ce centre a aussi affirmé, noir sur blanc, que malgré les difficultés qu'il y a eu, malgré des irrégularités que du reste la Commission nationale électorale nationale indépendante a reconnu qu'il y avait des difficultés, malgré toutes ces difficultés, cela ne modifie pas l'ordre d'arrivée de candidats tels que la CNI a eu à le publier. Donc nous connaissons déjà le jeu. Nous connaissons déjà le jeu. Nous savons qu'il faut susciter cette contestation, il faut peut-être lorgner une certaine négociation pour que les gens rentrent ou fassent rentrer le peuple congolais dans le partage équitable et équilibré de pouvoir. Alors je me dis, quel type de démocratie nous sommes en train de construire dans ce pays?
Non, on ne doit pas se moquer du peuple. Nous avons tous voulu aller aux élections, malgré les atermoiements de certains acteurs de l'opposition, certains leaders de l'opposition qui n'étaient pas prêts d'aller aux élections. Ben, nous sommes allés aux élections par la volonté du peuple. Il faut que nous retournions la politesse ou le respect au peuple congolais.
Alors, Vital Kamerhe dit que ce n'est qu'une formalité, le fait de déposer cette requête, parce que la réponse est déjà connue d'avance.
Bon, écoutez, j'ai de la considération pour Vital Kamerhe, mais là, il est en train de se comporter d'une manière inconséquente. On ne peut pas dire une chose et son contraire à la fois. Et en plus, en tant qu'homme d'État, il doit apprendre à respecter les institutions de la République, ma foi. Donc, le cours des tribunaux sont des institutions de la République. Donc, je pense que cette manière de la politique politicienne qui a fait son temps dans la Deuxième République et tout le long de la Conférence nationale souveraine, la plus grande transition que l'Afrique ait connue, ce sont des manières politiques qui sont révolues. Ici, nous devons honorer notre classe politique, nous devons respecter le peuple congolais en reconnaissant le verdict des urnes. Et là, dans l'opposition, même Vital Kamerhe ne croyait pas au score d'Étienne Tshisekedi. Et aujourd'hui, tous ces embrouilles-là sont concoctées du fait que, bon, de toutes les façons, les gens voudraient se positionner par rapport à l'opposition politique. Mais si nous devons être sincères avec nous-mêmes, il y a une loi portant statut de l'opposition politique. Aujourd'hui, en voyant le poids politique avéré de Étienne Tshisekedi, donc le porte-parole de l'opposition devrait être Étienne Tshisekedi. Vous voyez la propension à l'usurpation. C'est notamment cela. Aujourd'hui, Vital Kamerhe commence à fédérer toute l'opposition politique. Je me demande pourquoi cela n'a pas été fait avant.
Très brièvement, Sir Ruben Okende, est-ce un péché si un homme d'État se méfie d'une institution?
Bon, je ne dis pas que c'est un péché, mais politiquement, nous devons apprendre à être corrects, non accepter une chose et son contraire à la fois. Voilà.
Professeur Paul Gaspard Ngonankoy, vous êtes professeur de droit constitutionnel à l'université de Kinshasa. L'opposition, notamment Vital Kamerhe, qui dépose sa requête, mais en même temps qui n'a pas confiance en la Cour suprême de justice. Quelle analyse ça vous inspire?
Je reste cher ami de la question. Je voulais d'abord dire que ce que la loi prévoit, c'est qu'ils peuvent contester une élection présidentielle, en l'occurrence devant la Cour constitutionnelle, la Cour suprême de justice. C'est d'abord le parti politique qui a présenté un candidat. Deuxièmement, le candidat indépendant qui s'est présenté tout seul. Mais cela reste une faculté, c'est-à-dire un droit. On peut y recourir, on ne peut pas y recourir, ce n'est pas un péché si on décide de ne pas saisir la Cour ou si on décide de la saisir. C'est une liberté laissée à chaque candidat ou à chaque parti politique, la partie politique, et on ne peut pas avoir un jugement ou un autre sur cette question-là. Ça reste une faculté. Deuxième considération, au vu de cela, chacun peut avoir une opinion sur l'évolution qui va statuer sur le contentieux. Ça, c'est la liberté de chacun. Et cela est fondé, d'après ce que j'ai entendu, entre tout aussi un certain nombre de raisons. On évoque la composition de la Cour. Je sais très bien que certains critiquent les conditions de nomination des magistrats actuels, que ce soit avant-hier ou hier, dans des conditions que certains jugent pas correctes, pas légales. Ça, c'est leur droit. Deuxièmement, il y a un certain passé lié à la jurisprudence de la Cour suprême de justice elle-même en matière électorale. Vous savez très bien que cette Cour suprême, et moi j'ai fait une thèse de doctorat là-dessus, nous a habitués à trois catégories de tactiques jurisprudentielles. La première tactique, c'est ce que j'appelle la tactique d'évitement du contentieux. La Cour reçoit une requête et puis prend des motifs d'ordre formel, l'irrécevabilité ou le défaut des qualités et refuse d'aller au fond du problème et puis déboute la partie. Ça, c'est une tactique. Une deuxième tactique, c'est que la Cour se méprend sur une disposition constitutionnelle légale et l'interprète d'une façon tout à fait erronée, qui n'est admise par aucun juriste. Et ça, c'est ce que j'appelle les tactiques de méprise de la loi, de la Constitution. Il y a une troisième tactique, c'est que la Cour se montre effectivement comme un instrument à la disposition des hommes politiques et elle rend des arrêts conformes aux desiderata des hommes politiques. Et c'est là le domaine de ce que moi j'appelle les arrêts sur commande politique. Ça a été constaté dans la jurisprudence de la Cour suprême de justice depuis le début jusque maintenant et c'est prouvé scientifiquement. Troisième raison pour laquelle les gens peuvent avoir des doutes pour saisir la Cour suprême de justice, c'est le délai même du recours. Il est de 7 jours.
Est-ce que la Cour peut avoir raisonnablement le temps pour pouvoir vérifier toutes les irrégularités qui auront été dénoncées devant elle? Ça, ce sont un certain nombre de raisons qui poussent certains à dire je peux ou ne pas saisir la Cour suprême. Mais encore une fois, c'est la liberté de chacun de le dire ou de ne pas le dire. On ne peut ni condamner ni approuver. Ou le Conseil constitutionnel français, conscient de la brièveté de délai du recours contentieux, qu'est-ce qu'il fait? Au moment où on organise les élections, il envoie lui-même ses propres délégués pour aller constater sur le terrain. Et c'est au vu des rapports de ces délégués, et s'il y a un recours qui est introduit devant lui, que le Conseil va statuer en connaissance de cause. Notre Cour suprême a déployé combien de délégués dans les 63 875 bureaux de vote. Si aujourd'hui on lui présente un dossier, fut-il ficelé ou pas, est-ce que la Cour aura raisonnablement les moyens et le temps de pouvoir rendre un arrêt qui ne soit pas contesté? C'est tout ça qui fait que certains candidats hésitent à pouvoir la saisir pour plusieurs raisons. Pour cela, on ne doit ni condamner ni approuver. Il faut constater, chacun de nous fait l'exercice de son droit, et comme le président Kamere l'a fait, il faut respecter ce droit-là. Il faut voir si le dossier est bien ficelé, s'il n'y a pas de vice de forme, etc. Si les moyens de preuve sont là, la Cour examinera avec ses faiblesses, avec ses qualités, et elle verra si, effectivement, les irrégularités dénoncées ont pu avoir une influence déterminante sur les résultats, et la Cour se prononcera.
Alors, professeur, il faut préciser qu'en dehors de la Cour suprême, il n'y a pas d'autres juridictions.
Non. En matière de contentieux de l'élection présidentielle, c'est la Cour constitutionnelle. Aujourd'hui, c'est la Cour suprême de justice qui fait office des Cours constitutionnelles. C'est donc elle qui est compétente, en tout cas d'un point de vue juridictionnel. Il faut regretter ici que la Cour constitutionnelle n'ait pas pu être mise en place alors que la loi a été adoptée au Parlement. Elle a été transmise au président de la République pour promulgation. Aujourd'hui, la Cour n'a pas été mise en place. Je précise d'ailleurs qu'en vertu de l'article 140 de la Constitution, cette loi-là est déjà entrée en vigueur. Parce que si la loi n'a pas été promulguée par les chefs de l'État dans les délais constitutionnels, en vertu de l'article 140, la promulgation est de droit. Maintenant, il reste à la publier au journal officiel pour qu'elle soit opposable à tous les citoyens et aux institutions de mettre en place effectivement la Cour constitutionnelle. Ceci n'a pas été fait avant les élections, il faut le déplorer, mais puisque c'est la Cour suprême qui fait office de cette Cour-là, c'est elle qui, dans le cas d'espèce, va examiner la requête du président Vital Kamerhe.
Merci, professeur Ngondanko. Maître Jean Baudouin-Maillot, vous allez réagir au propos du professeur ainsi que de Chérubin Okende. Mais il y a cet auditeur Loko Mukuli de Goma en Nord-Kivu qui dit pourquoi Vital Kamerhe aujourd'hui devant la Cour suprême de justice, pendant qu'hier il a qualifié d'inféodé à la cause de Joseph Kabila, est-il maintenant devenu le porte-parole de l'opposition? Chérubin Okende a pratiquement posé aussi la même question. Parce qu'on le voit quand même porter l'étendard pratiquement de l'opposition en ce moment.
Merci beaucoup, mon cher ami. Je commence par votre question ou la question de l'auditeur de Goma, et puis je vais quand même rencontrer ce que mon frère Chérubin Okende a dit tout à l'heure et apprécier la science du professeur qui est en ligne. Non, le président Kamerhe est légaliste. C'est son droit de saisir la Cour suprême de justice. En même temps, il a son opinion à lui sur la Cour suprême de justice. C'est son opinion.
Que vous ne semblez pas partager, visiblement.
Non, je n'ai pas dit quelque chose qui contredise l'opinion du président Kamerhe. J'ai dit tout simplement qu'en tant qu'avocat, Je ne peux pas me permettre un jugement de valeur sur la Cour suprême de justice. Je suis soumis à une déontologie. Et il faut le comprendre. Mais le président Kamerhe, lui, il a sa liberté en tant que citoyen d'avoir son opinion sur la Cour suprême de justice. Et je n'ai pas contredit cette opinion-là. Je n'ai émis aucun jugement sur son opinion. Je respecte son opinion. Alors, maintenant, par rapport à ce que mon frère Chérubin Okende a dit, il n'y a pas de contradiction entre moi et le président Kamerhe. Le président Kamerhe a donné son jugement de valeur sur la Cour suprême de justice. Moi, je me suis réservé parce que ma profession me l'interdit. Donc, il n'y a pas de contradiction. Deuxième chose, à moins que je sois devenu amnésique, ce qui m'étonnerait, je n'ai pas parlé du rapport de Centre Carter quand je suis intervenu. Je n'ai pas parlé du cardinal Mossengo quand je suis intervenu. À moins que Chérubin Okende ait venu avec son papier qu'il est en train de lire et qu'il voudrait m'attribuer. Il pensait peut-être que je parlerais de Centre Carter, je parlerais du cardinal Mossengo. Non. Dans mon propos, je n'ai pas parlé de Centre Carter, ni de Monseigneur Mossengo, encore que ce qu'ils ont dit comporte beaucoup de pertinence. Et il se réjouit que la Belgique aurait reconnu l'élection du président Kabila. Non. À ce que je sache, la Belgique n'a pas reconnu l'élection du président Kabila. C'est prématuré d'ailleurs. Il faudra attendre que le contentieux soit vidé. Encore que le ministre belge, le nouveau ministre belge, le vice-premier ministre, le ministre des Affaires étrangères, a dit que entre Tshisekedi et Kabila, lui, il choisirait Tshisekedi. Ça, c'est clair. Merci. Alors, pour nous de l'opposition, c'est Tshisekedi qui a gagné les élections, qui a gagné l'élection présidentielle. C'est clair pour nous. Alors, maintenant, après Tshisekedi, c'est le président Kamere qui vient en ordre de voix, encore que nous contestons ces voix-là. C'est à lui, maintenant, de porter l'étendard de l'opposition. Quel mal y a en cela? Pourquoi
Merci.
Mon ami Chérubin Okende ne comprend-il pas cela? Pour nous, Tshisekedi, ce n'est pas le porte-parole de l'opposition, c'est le président élu. Alors, enfin, je crois que la Cour suprême de justice, on n'a pas à lui faire confiance.
Merci.
On n'a pas non plus à jeter le discrédit, l'anathème sur elle. Il faut attendre que la Cour suprême de justice puisse rendre verdict et que l'on voit comment cette Cour va se comporter à ce moment-là. Moi,
merci.
Je l'apprécierai.
Merci. Merci, Maître Maillot. Merci, Maître Maillot. Permettez que je vous arrête à ce niveau. Le temps de faire réagir Chérubin Okende, le professeur Ngondankoy a soulevé certains points qui amèneraient certaines personnes à douter un peu de la Cour suprême. Il parle par exemple de la jurisprudence en matière de contentieux électoral où la Cour se comporte comme un instrument, se comporte entre autres comme un instrument au service du pouvoir en place.
Eh bien, cette jurisprudence, porte sur quelle cour? La même Cour suprême de justice? Je regrette. Ici, nous devons éviter de faire du juridisme. Le professeur a pu évoquer quelques tactiques de méprise de résultats ou de contentieux. Ben, il ne procède que par les mêmes présomptions négatives. Je le regrette. Je le regrette. Quand il faut dire la science, il faut la dire en toute honnêteté. Dans tous les cas, il porte ses présomptions négatives sur la Cour suprême de justice, lui, professeur de droit constitutionnel, mais il ne conseille pas la voie de sortie, le cas échéant. Nous allons où? Dans le respect des institutions de la République ou dans la méprise de ces institutions de la République? Non. Moi, je pense que lorsque nous donnons nos avis, essayons de nous élever pour ne pas en donner le caractère spécieux. Il y a un auditeur qui est intervenu, Koulou Pascal, avait même recommandé dans son intervention en disant que Vital Kamerhe devrait aussi accompagner sa requête en annulation de tous les procès-verbaux qu'il remettrait en cause. Nous attendons donc voir comment la Cour suprême de justice va connaître de ce contentieux tel que soulevé par Vital Kamerhe. N'anticipons pas de choses, ne mettons pas, ne créons pas de préjugés négatifs dans la tête des Congolais en discréditant les institutions de la République. Ça, je regrette. De deux, j'en viens à mon ami et frère Baudouin Maillot. Je connais, je respecte bien Baudouin. Je sens en lui, je ne lui prête pas d'intention, une certaine malaisance lorsqu'il parle de choses qu'il maîtrise. Bon, je le comprends, mais ici, nous sommes dans un cas précis. Je n'ai pas de papier, mais malheureusement, il a déserté le plateau. Hein. Ici, moi, j'ai répondu à l'invitation. Lui, il intervient par téléphone. Il m'aurait vu. Je n'ai pas de papier, mais il a cité aussi l'Église avec. Or, lorsqu'il cite l'Église avec eux, moi, je m'interroge, c'est quelle Église? Je crois que les sons discordants ont été donnés par l'Église catholique. De quel fait? Il y a la SENCO qui avait donné un point de vue et individuellement, l'archevêque de Kinshasa, Monseigneur Mosengo, a donné un autre point de vue. Et dans le sens de les caresser, dans le sens de leur poil. Il faut fustiger cela parce qu'au fait, l'homme de Dieu doit rester comme l'Église au milieu du village. Et cela, de mon point de vue, procède d'un schéma. Même le fait aujourd'hui que Baudouin dise que bon, enfin, tout naturellement, ça doit être Vital Kamerhe qui s'autoproclame, donc porte-parole de l'opposition, nous continuerons avec notre opposition dans une série d'autoproclamations. Etienne Tshisekedi, c'est pas un péché de s'autoproclamer président de la République. Ici, par la bouche de Baudouin Maillot, c'est Vital Kamerhe qui devient porte-parole de l'opposition. Ben, allez-y comprendre quelque chose. Donc, ne déplaçons pas le fond du débat. Nous avons voulu un état de droit. Un état de droit veut dire qu'il y ait de lois et des institutions. Suivons ce que ces institutions-là, notamment la Cour suprême de justice, va donner comme verdict.
Prenons cette réaction qui nous vient de Mbandaka à l'Équateur pour vous.
Chef de travaux Jean-Bernard Mibeko, Mbandaka, province de l'Équateur. Les dépôts du recours par l'opposition constituent la preuve du respect de celle-ci de la procédure légale. Il reste maintenant à la Cour suprême de justice de faire son travail correctement. Est-ce que la Cour suprême de justice pourrait examiner ces dossiers dans les délais impartis, étant donné que la CENI n'a pas encore transmis les plus de procès-verbaux des résultats provisoires de l'élection présidentielle à la Cour suprême de justice?
Très brièvement, cher Ruben, okay. Kende, la Cour ne sera-t-elle pas butée à ce problème de délai dont a parlé le professeur Ngondankoy?
Non, c'est à la Cour d'apprécier. Je n'ai pas de préjugés à émettre sur le travail de la Cour, non. Et là, je suis catégorique et ferme.
Merci. Notez que dans une déclaration à la presse ce mardi 13 décembre à Kinshasa, l'opposition politique congolaise rejette en bloc les résultats de la présidentielle du 28 novembre dernier en proclamant Joseph Kabila président et en appel à la médiation internationale pour la résolution de la crise post-électorale en RDC. Entouré de toutes les tendances politiques de l'opposition congolaise, Vital Kamerhe, président de l'UNC, candidat président de la République, classé troisième dans les résultats provisoires publiés par la CENI, dénonce également la suspension des SMS ainsi que la fermeture brusque et sans raison des chaînes de télévision proches de l'opposition. Écoutez cet extrait de la déclaration lue par Vital Kamerhe au micro de Paul Félicien Nangana et José Junior Owawa.
L'opposition réaffirme le rejet des résultats publiés par la CENI et confirme sa volonté de se soumettre à la seule vérité des urnes afin de garantir au peuple congolais le respect de son suffrage. Elle note que M. Ngoï Moulunga, président de la CENI, a fait un passage en force en proclamant M. Joseph Kabila comme président de la République. Avec la complicité des autres membres du bureau, l'opposition saisit le secrétaire général et le Conseil de sécurité des Nations Unies, la Commission de l'Union africaine, l'Union européenne, la SADC, la CAC, au sujet de la crise politique post-électorale en République démocratique du Congo, en vue de solliciter leur médiation.
Professeur Paul Gaspard Ngondankoy, l'opposition sollicite une médiation, visiblement il y a une crise. Et cher Ruben Okende, je reviens sur une question qu'il vous a posée. Quelle est la voie de sortie que vous proposez en vous référant à la Constitution?
Ah non, ça ce n'est pas la question qu'il faut poser à un constitutionnaliste. La question de la voie de sortie, elle appartient aux politiques. Ce sont les politiques qui prennent l'impulsion. Ce sont les politiques qui prennent des initiatives pour résoudre des problèmes. Évidemment, les solutions que les politiques proposent doivent l'être dans le cadre de la Constitution. La Constitution pose des règles de base, mais le management de ces règles-là, c'est qu'il appartient aux politiciens. Non, je crois que je peux rassurer mon frère Schremer Okende. Il ne s'agit pas pour moi d'avoir des préjugés sur la Cour suprême ou de la pontifier. Non, du tout. J'ai fait le résultat d'une recherche scientifique que je menais auprès de la Cour suprême de justice dans le cadre de sa jurisprudence en matière électorale, je suis arrivé à cette conclusion-là. Bon, il lui appartient de faire la même recherche et puis nous allons discuter entre nous. Il ne s'agit pas de préjugés. J'ai simplement dit que la saisine d'une juridiction, c'est un droit, c'est une liberté. Il appartient à chaque citoyen de le faire ou de ne pas le faire. Si un citoyen le fait, il ne faut pas le condamner. S'il ne le fait pas, on ne le condamne pas non plus. Chacun de nous peut avoir un préjugé sur une juridiction dans la mesure où ce n'est pas un outrage fait à des magistrats. Chacun de nous peut émettre une opinion. Il n'y a rien à condamner là-dessus. Simplement, j'ai rappelé que certaines inquiétudes, certains soupçons peuvent être fondés sur des faits tout à fait vérifiable. Et moi, j'ai pu vérifier en ce qui concerne, par exemple, la jurisprudence de la Cour suprême, qu'elle n'a pas toujours été révisée. Alors, il y a d'autres raisons liées au délai, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui font que, de toutes les manières, la décision de la Cour suprême ne sera pas une parole d'évangile. Elle sera toujours sous ce type de critique. Et je me demande si elle va pouvoir résoudre le problème. C'est peut-être dans ce cadre-là que certains ne voient se lèvent pour pouvoir solliciter déjà une médiation. Parce qu'on sait pertinemment bien que la décision de la Cour suprême ne va pas résoudre le problème. On n'a qu'à se référer à ce genre de soupçons. Alors, en ce moment-là, peut-être que certains estiment qu'il faut solliciter l'intervention d'autres instances. Et en ce moment-là, il appartient à la politique vraiment de prendre la décision. Ça n'appartient pas aux constitutionnalistes de leur dire, voilà, vous devez faire ceci, vous devez faire cela.
Mais, professeur, le constitutionnaliste que vous êtes, ne devrait-il pas donner certaines pistes pour éviter que les politiciens ne violent la Constitution dans ces négociations?
Non. Le fait de solliciter une médiation internationale n'est pas du tout interdit par la Constitution. Simplement, si on prend des décisions à l'intérieur de cette médiation qui violent la Constitution, il faut identifier ce genre de décisions. Or, pour l'instant, ces décisions ne sont pas prises et je vais pouvoir me prononcer sur des choses qui n'existent pas encore.
Donc, il faudrait attendre.
Il faudrait attendre, à mon avis.
Maître Jean-Baudouin Maillot, en sollicitant cette médiation africaine et internationale, à quoi s'attend concrètement l'opposition?
Mais c'est clair, l'opposition voudrait que la médiation vienne pour retracer les voies de chaque candidat. Viennent nous aider à retracer, parce que nous ne pouvons pas le faire. Viennent nous aider à la véracité de l'élection que nous avons connue. Et à ce moment-là, certainement que on verra que c'est l'opposition, en l'occurrence, le président Etienne Tshisekedi, qui a gagné cette élection-là. C'est ça, nous voulons qu'il y ait traçabilité du processus, traçabilité de voix, parce que tout le monde s'accorde à dire que les résultats proclamés par la CENI ne sont pas crédibles. Ça,
Maître,
c'est clair.
Maître Maillot, il nous reste moins de 5 minutes pour terminer l'émission. Je vais vous demander des réponses courtes et précises. Quand vous parlez de retracer les voix de chaque candidat, comment cela se ferait-il concrètement d'après vous?
Non, la médiation fixera. Vous savez qu'au niveau de chaque bureau de vote, après le vote, ces bureaux se sont transformés en bureaux de dépouillement. Et après les dépouillements, il y avait des résultats affichés. Ça, ce sont des vrais résultats. Encore que, il y a eu bourrage des urnes par les partisans du pouvoir actuel. Voilà. Donc,
merci.
Il y a quelque part l'expression du peuple au niveau des résultats affichés.
Merci.
Et on s'est pressé pour les enlever tout de suite.
Merci.
Chérubin
Okende. Maître Maillot, permettez, je vous redonne la parole tout à l'heure, Chérubin Okende. Réaction par rapport à cette médiation que sollicite l'opposition.
Je rappelle d'abord à Maître Maillot que l'administration de la preuve incombe à l'accusateur. Okay? Donc lorsqu'il parle de bourrage de urnes, il doit être en mesure de le prouver et j'espère bien que dans la requête en annulation que l'UNC, c'est pas toute l'opposition, c'est pas l'UDP, c'est pas le FONUS, c'est pas l'UNC a pu déposer, ils ont également excipé de preuves.
Avec l'appui de l'opposition.
Évidemment. Voilà. Et maintenant la médiation. Moi je dis, je suis d'accord avec Paul Gaspard lorsqu'il dit peut-être que la solution serait politique. Mais nous devons absolument éviter la politique politicienne pour marginaliser le peuple lorsqu'il s'est valablement exprimée. Et lorsque nous prenons sur l'option politique, c'était prémédité depuis longtemps. Il y a des politiciens de conjoncture, il y a des politiciens de conciliabule, il y a des politiciens de négociation. Maintenant que nous sommes allés aux élections, il faut en appeler à une médiation pour dire peut-être qu'on va déboucher sur le schéma
kényan,
oui, des histoires comme ça. Et moi, je crois que ça, c'est une insulte sur le peuple congolais. Nous devons faire très attention. Nous devons faire très attention parce que ce processus, la démocratie doit appartenir au peuple en tant que souverain primaire. Le peuple s'est exprimé. Nous devons avoir l'élégance politique de reconnaître là où nous n'avons pas été performants que nous avons échoué. Il n'y a pas de mal en cela, il n'y a même pas de honte à cela. Aujourd'hui, il est clair que tous ceux qui ne croyaient pas en Étienne Tshisekedi, ceux qui se réclament de l'opposition bien entendu, ils ont déchanté parce qu'Étienne Tshisekedi leur a démontré qu'il n'était pas aussi dépassé que eux pensaient. Alors, il faut l'embrouiller davantage pour qu'il y ait cette hold-up de position, de deuxième position, ce n'est plus Étienne Tshisekedi. Or, ils savent pertinemment bien que Étienne Tshisekedi n'est pas président de la République, ma foi.
Voilà, il reste 2 minutes pour terminer cette émission. En guise de conclusion, cher Ruben Okende, si solution politique il devrait y avoir, ce serait laquelle?
Moi, je pense que nous devons d'abord cultiver le sens de la loi et de l'État. Nous devons nous investir dans les vertus républicaines. Essayons d'amadouer nos égos, nos égoïsmes en tant qu'opérateurs politiques pour respecter la volonté du peuple. Si nous allons encore dans des conciliabules politiques pour mettre hors jeu le peuple souverain, je regrette pour notre démocratie.
Merci professeur Paul Gaspard Ngondankoy. Je reviens sur une question, un élément que vous avez soulevé tout à l'heure, le délai de recours. Pensez-vous que ça pourrait constituer un problème par rapport à la Cour suprême de justice?
Je pense que objectivement oui, parce que même si on donnait à la Cour tous les 63 875 PV de bureaux de dépouillement, la Cour matériellement aura difficile à terminer l'examen de ces PV dans les 7 jours. C'est une difficulté objective, on ne peut pas l'occulter. Mais cela dit, maintenant que la Cour est saisie, attendons son verdict. Je voudrais deuxièmement dire à tout le monde que n'exagérons pas la portée de la légitimité d'une élection. Dans une élection, il n'y a jamais qu'une infime minorité de la population qui se prononce. Déjà, on a dit que c'était 32 millions d'électeurs sur 60 millions de Congolais. Sur les 32 millions, 18 millions à peine se sont prononcés. Et sur les 18 millions, chacun a pu avoir 5 millions, 10 millions, 8 millions, etc. Vous voyez que il faut relativiser toute forme de légitimité, toute forme de représentativité. L'élection, ce n'est pas la fin du monde. Mais il faudrait relativiser toute chose.
Merci. Merci professeur Ngondankoy. Maître Jean Baudouin-Mayo, juste un mot en guise de conclusion.
Oui, merci. Je vais en dire deux. D'abord, la médiation que nous sollicitons, ce n'est pas pour qu'on arrive à des gouvernements d'union nationale. Ça, c'est un procès d'intention inutile. Nous, ce que nous voulons est que la volonté du peuple soit respectée.
Merci.
Ce qui a été élu. Et je n'ai pas dit que Kamere était devenu le porte-parole de l'opposition. Ça, c'est légal.
Merci.
J'ai dit qu'il est le porte-étendard d'aujourd'hui. Ce n'est pas le porte-parole, c'est différent.
Merci, Maître Mayo. C'est par vous que nous terminons cette émission. Merci également à toute l'équipe qui m'a aidé à la préparer. Guy Maté, Kevin Kouté, Samuel Kachak, Peli Kipela, Dieudonné Nyangasa, Patrick Yassongwa, coordination et présentation Alain Irung. Au revoir.